Maison du Podcast présente.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Wild, le podcast animalier, est une série audio du magazine Pirouette, un mag super chouette pour les enfants de 5 à 8 ans qui aiment, comme toi, grandir et apprendre avec le sourire. Salut nos petits aventuriers et bienvenue dans Wild, le podcast animalier.
Un podcast pour partir à la découverte de tous les animaux à travers le monde.
Un reportage avec un animal étonnant et un guide qui nous emmènera sur ses traces. Tu es prêt? Attention, c'est parti! Aujourd'hui les aventuriers, nous partons à la montagne. Voilà, je marche, belle randonnée au milieu de la rivière. Vous entendez la rivière qui coule derrière nous. Et on va sur les traces d'un oiseau vraiment sympa, le faucon. Notre guide s'appelle Jérémy et il va tout nous expliquer. Je vous fais profiter un peu du ruisseau qui est à côté de moi, en pleine montagne. Ça, c'est vraiment merveilleux. On reprend la randonnée, direction le faucon.
Là-haut, sur la montagne.
Professeur, oh, attendez-moi, quelle forme vous tenez?
Tu m'étonnes, l'air pur de la montagne, ça ravigote. Je me sens comme un petit genou. Allez, hop, on grimpe.
Professeur, on va vraiment jusqu'au sommet?
Oui. Pour observer nos amis, les faucons crécelles. Il faut être le plus haut possible. Tu as bien tes jumelles?
Oui. Oh là là, je sais pas si je vais réussir à monter jusqu'en haut, moi.
Oh, mais les jeunes, quelle calamité! Vous vous plaignez tout le temps. Est-ce que je rechigne, moi?
Vous êtes quand même un sacré bougon, professeur, sans vouloir vous offenser.
Moi, pas du tout. J'ai mon petit caractère, c'est vrai, mais je suis absolument épatant. Et puis, je suis dans une forme... Olympique.
Professeur, bon, enfin, c'est pas le moment de vous endormir. Dire qu'on était presque arrivé au sommet. Une forme olympique, tu parles. Bon, eh bien, je crois que je n'ai plus qu'à poursuivre ma route toute seule. Jérémy, j'arrive. Olympique, la bonne blague. Jérémy, est-ce que tu peux nous décrire déjà où est-ce qu'on est?
On est sur les hauteurs du vallon du Touron, une des vallées perpendiculaires à celle du Drac qui remonte dans le parc national des Écrins. Donc on est vraiment à la limite de la zone cœur du parc national.
Alors, donc, aux jumelles.
Comme tu l'as dit, on observe un faucon cresserelle qui adore ses milieux ouverts parce que sa méthode de chasse, vous le connaissez certainement, il consiste à faire le vol du Saint-Esprit, du surplace en battant des ailes pour attraper des micro-mammifères, campagnols, mulots, souris. Et donc ici, dans un paysage ouvert d'alpage comme ici, c'est parfait comme zone de chasse. Et comme les micro-mammifères peuvent remonter assez haut en altitude, bah, on va retrouver le faucon cresserelle assez haut.
Mais c'est pas toujours facile hein, d'identifier en vol. Alors donc les astuces, c'est de regarder le bout des ailes, la queue.
Alors l'idée, c'est que le cresserelle, il y a peu de chances de le confondre avec un autre rapace qui aura les mêmes colorations. Donc lui, c'est vraiment ce corps très très clair et pâle. Et si on a la chance de le voir de dessus, il aura le centre du corps et des ailes qui sera plutôt chamois, brun roussâtre, et le bout des ailes noires. Mais ça, c'est quand on le voit de dessus. Et de dessous, il aura le ventre vraiment beige, très très clair. Si on a la chance de le voir de près, en fait, il est tacheté de noir. Et sur la queue, il y aura une barre terminale noire qui sera assez visible.
Alors, ça se mérite hein, de venir voir des faucons. Il faut marcher, il faut faire une bonne rando quand même hein, pour arriver jusque-là.
Alors, pour le faucon cresserelle, ici, oui, il fallait bien marcher pour monter là. On est à 1700 mètres d'altitude. Mais c'est un rapace qu'on peut observer au bord des routes, au bord des autoroutes, etc. Puisque comme il affectionne les milieux ouverts pour sa chasse, on peut le retrouver aussi bien en plaine qu'en montagne. Et si vous prenez la voiture et que vous êtes attentif à ce qui se passe au bord de la route, vous le verrez certainement soit posé sur un piquet ou en train de faire du surplace dans les champs.
Alors tu disais micro-mammifères, donc c'est pas forcément les mêmes micro-mammifères ici en haut de la montagne, j'imagine, qu'en bas dans la vallée.
Alors il va y avoir les campagnols notamment, mais il y a plusieurs espèces de campagnols et ce sera pas forcément les mêmes qu'on trouvera en fond de vallée qu'en haut de vallée. Et ensuite, dans les zones de plaine ou de bocage, il y aura aussi le mulot. Et puis dans un environnement plutôt préservé, on peut trouver aussi du grand hamster normalement, qui a pratiquement disparu de France. Mais la plupart des micro-mammifères qu'on connaît, c'est-à-dire les mulots, les campagnols, les souris, les musaraignes, peuvent faire l'objet du repas du cresserelle.
Alors comment il fait? Il plonge? Il fait en piqué et...
Il fait du surplace, de manière à scanner une zone, un peu comme un drone en fait. Il va rester... Et puis dès qu'il va détecter un mouvement, il va se laisser tomber dessus.
Et c'est rapide, non, le faucon? Parce que c'est connu, c'est pas le faucon pèlerin qui est le plus rapide des oiseaux?
Bah du coup, le faucon pèlerin, c'est une autre espèce en effet, donc qui est plus grosse, qui va faire la taille d'un pigeon ramier à peu près. Et le faucon pèlerin, c'est l'animal le plus rapide qu'on a sur Terre, en mammifère, oiseau, etc. Puisqu'il peut atteindre des vitesses dépassant les 300 km/h en piqué, mais cette vitesse-là, va être atteinte que pour des piquets de parade nuptiale.
Alors celui-là qu'on a vu, il est donc pas aussi rapide, mais on sait à peu près à quelle vitesse il peut évoluer.
Ce vitesse, en vitesse de croisière, on va dire, il peut atteindre très facilement les 70 km/h en vol. Mais globalement, il ne va pas chercher à atteindre cette vitesse-là tout le temps, puisque c'est une dépense d'énergie qui n'est pas forcément utile. Par contre, sa chasse, faire du surplace, c'est-à-dire battre des ailes pour pouvoir rester stable, ça demande énormément d'énergie, mais c'est un parti pris qui est payant, puisqu'en période de reproduction, il peut dépasser les 30 micro-mammifères par jour de capturés, ce qui lui permet de nourrir des portées assez importantes, jusqu'à 7 ou 8 petits pour le faucon cresserelle. Mais c'est rare que tout ça arrive à l'âge adulte. Hein. Mais l'idée, c'est que il va faire des grosses portées. C'est des animaux qui ne vivent pas très longtemps. 5, 6, 7 ans, parfois, ça n'a pas une très grosse longévité. Donc c'est les mêmes stratégies que les micro-mammifères qui chassent, par exemple. Des générations courtes, mais avec beaucoup de petits.
Et alors, où est-ce qu'il niche?
Le faucon cresserelle, dans ce milieu-là, il va plutôt nicher en falaise. On peut le voir autour de nous, là, autour des alpages, au-dessus des alpages. Il y a énormément de falaises qui permettent justement de faire un nid. Donc il ne fait pas vraiment un nid, hein. Il va se servir juste d'une petite paroi, d'un replat abrité sur une falaise. Et sinon, il va squatter les nids d'autres corvidés, en plaine, dans les bocages, les haies, de pies, par exemple. Et il ne va pas forcément voler le nid, il va juste utiliser un nid qui n'est plus utilisé. Il peut donc aussi nicher dans les arbres.
De piquer les nids plus utilisés, ils sont un peu flemmards, non?
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces qui ne sont pas capables de les fabriquer ou d'en fabriquer qui sont suffisamment bien pour eux et pour leur taille. Donc en effet, on va utiliser ce qui se trouve dans l'environnement. Ce n'est pas tellement du vol, puisque la plupart des oiseaux qui fabriquent des nids ont tendance à en changer. Même les grands rapaces, par exemple, comme l'aigle royal, va avoir plusieurs aires. On appelle ça des aires pour les rapaces. Et d'année en année, si jamais il décide de changer, il va quand même alimenter plusieurs aires et en choisir un à la fin. Ce qui fait qu'on peut avoir sur un même territoire d'aigle royal 3 ou 4 aires à différents endroits qui ne seront pas forcément utilisés tous les ans et qui peuvent être utilisés par d'autres rapaces.
Et comment est-ce qu'on explique qu'ils changent de nid, en fait?
Ça peut être pour les parasites, c'est-à-dire que d'année en année, à cause des déjections, des plumes, des carcasses ramenées dans le nid pour le nourrissage des jeunes, peut y avoir des parasites. Et puis après, si jamais il y a eu échec de reproduction, par exemple, ils peuvent se dire, si jamais la reproduction n'a pas marché, c'est peut-être aussi à cause de l'emplacement du nid, et donc on va se déplacer. C'est des oiseaux assez pragmatiques, en fait, qui, si jamais ça fonctionne, les petits arrivent à l'envol, etc., il n'y a pas de raison de changer de structure. Par contre, si jamais il y a un problème, on va essayer de changer la configuration pour réussir l'année d'après.
Une petite astuce pour observer les oiseaux, c'est pas toujours évident. Alors comment on fait? Est-ce que t'as des astuces?
Être attentif au mouvement, c'est toujours plus facile de détecter le mouvement. Et l'œil humain est fait pour ça, puisqu'il faut pas oublier qu'on est des chasseurs-cueilleurs au départ. Et surtout, le fait de scanner aux jumelles avec un petit peu de ciel et un petit peu de sol dans les jumelles, dans le rond de jumelles, ce qui va permettre de détecter les oiseaux qui passent sur fond de ciel assez facilement et du coup de les repérer facilement dans l'espace puisqu'on a toujours le sol comme repère. Tandis qu'un point noir dans le ciel, c'est très très difficile à localiser. Alors qu'un point noir qui vole au-dessus d'un pic rocheux bien délimité, c'est beaucoup plus simple.
Une fois qu'on l'a accroché dans le ciel, après on peut le suivre dans la montagne beaucoup plus facilement. Et on les voit du coup plus la journée, ceux-là, la nuit, on les voit pas?
Ce sont des rapaces diurnes, et comme la plupart des rapaces diurnes, ils se servent aussi des courants ascendants pour se déplacer, pour économiser leur énergie. Et donc en effet, les courants ascendants sont beaucoup plus présents la journée avec la chaleur du soleil que la nuit.
Beaucoup plus à l'heure du déjeuner, midi, c'est la bonne observation.
Pour les grands rapaces, notamment planeurs, vautours, aigles, oui, ça va être ces heures-là. C'est pour ça que c'est toujours bien de suivre ces espèces-là, on n'a pas besoin de se lever tôt.
Merci Jérémy, on va continuer nos observations à la jumelle?
Oui, on continue et on va continuer la recherche.
Alors professeur, on a fait une bonne grosse sieste dans la montagne?
Pas du tout, ma grande. Figure-toi que j'ai fait un sacré vol avec mes copains faucons.
Comment ça? Quand je vous ai laissé, vous dormiez comme un bébé à côté du ruisseau.
Oui. Une petite micro-sieste de rien du tout. Et après, mes copains faucons sont arrivés.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, on est parti pour une sacrée virée. Qu'est-ce que tu crois, toi? Ah, la vue là-haut, c'est tellement sympa.
Vous étiez là-haut?
Évidemment, je t'ai fait coucou. J'étais sur l'aile du faucon et tu observais à la jumelle. Tu ne m'as pas vu?
Alors, professeur, vous me surprendrez toujours.
Qu'est-ce que tu crois? Je suis un super professeur.
Voyons si j'arrive à vous piéger avec la question d'un petit auditeur. Celle-là, elle devrait vous donner du fil à retordre. Vous êtes prêt, professeur?
Oui, toujours prêt.
Alors c'est parti, en route le répondeur.
Bonjour, professeur Saclou, je m'appelle Adrien, j'ai 6 ans. Est-ce que les animaux peuvent être malades? Parce que moi, j'ai jamais vu mon chat malade.
Ah, merci mon petit Adrien pour ta super question. Tu as raison. Ce n'est pas une question facile. Eh bien oui, figure-toi que les animaux sauvages, eux aussi, sont malades. Alors c'est vrai, ils sont moins malades que les animaux domestiques, car ils ont répondu aux lois de la sélection naturelle, qui les ont endurcis au fil des années. En gros, s'ils sont là, c'est qu'ils sont super résistants. Tu as déjà entendu parler de l'ambre gris?
Je connais l'ambre, c'est moi, mais pas l'ambre gris.
Eh bien, l'ambre gris, on peut dire que c'est du vomi de baleine.
Ah bah c'est sympa.
Les chevaux, les zèbres, les lapins ne vomissent pas, car ils n'ont pas l'anatomie pour. Mais les singes ou les gorilles peuvent attraper un rhume, la grippe ou même le Covid. Certains poissons ont même des cancers de la peau. Incroyable, non? Le plus fou dans tout ça, c'est que les animaux comme nous évitent de se refiler les maladies quand l'un d'eux tombe malade. Chez les poissons, et chez les souris, et chez les singes, chez plein d'autres espèces, quand l'un d'eux tombe malade, tout le monde prend précaution pour ne pas s'en approcher et l'attraper aussi. C'est la loi de la survie, tu comprends?
C'est alors, c'était vraiment une bonne question de notre petit auditeur Adrien.
Voilà mon taxi. Rendez-vous en bas, ma grande.
Quoi? Vous repartez en faucon?
Évidemment. Toi, t'es jeune. T'es prête à redescendre à pied.
Mais je croyais que vous étiez en pleine forme.
Oui. Il faut être en pleine forme, tu sais, pour piloter un faucon. Allez hop, je me mets mes lunettes et on décolle. Rendez-vous en bas. Profite bien de ta balade.
Ah, ce professeur, quel numéro! Vivement que je puisse me miniaturiser, moi aussi.
Plus vite, faucon! Allez, plus vite!
Wild, le podcast animalier, sort tous les mercredis et c'est gratuit. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Si tu veux participer, envoie-nous tes questions avec des vocaux sur les réseaux sociaux Wild Podcast Animalier et sur Facebook et sur Instagram.
Pirouette est un magazine du groupe Unique Héritage Média. Retrouve-le chez ton marchand de journaux préféré ou abonne-toi sur www.fleuruspresse.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.